Mettre fin à l'exploitation animale pour mettre fin à l'exploitation générale. Libre Radio, la radio des morsures qui change le lait en beau. www.libradio.org.
Salut et merci d'être venu pour cette intervention. Et puis je vais faire quelques précisions avant de commencer. La première, c'est déjà que ce dont je vais parler, c'est bien un système tout entier. Et du coup, les boutiques en fait et les différents commerces que je vais citer, c'est que des parties prenantes. C'est que des parties prenantes de ce système-là. Donc ces boutiques, elles sont interchangeables. Et voilà, le but, c'est pas de les incriminer en elles-mêmes, mais plutôt de voir ce que ça produit en termes de système. N'hésitez pas à me poser posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez que je répète quelque chose, il n'y a pas de souci non plus. Et du coup, par ça, les expériences que je raconte qui portent sur un lieu en particulier, ça ne veut pas dire que les autres lieux, par ailleurs, sont des lieux exemplaires. C'est des choses qui se produisent à peu près partout. Mes positions critiques, elles n'ont pas valeur d'injonction aux militants et aux militantes. Le but, ce n'est pas d'incriminer nos pratiques. Mais nos pratiques de consommation et nos pratiques d'achat, mais plutôt de donner des outils théoriques et des outils expérientiels qui vont... Ça va pas ? C'est trop vite ? Bah, je peux aller plus vite. Toi, t'entends... Ok. Du coup, tous les contenus que... Désolée. Tous les contenus du coup que je présente, ça n'a pas valeur d'injonction. Mais donc le but, c'est pas d'incriminer nos pratiques de consommation. Mais plutôt du coup de nous donner des outils théoriques et expérientiels qui vont nous permettre d'avoir un avis critique vis-à-vis des conditions de travail dans les mondes du vegan, entre guillemets. D'autant plus que c'est des lieux où on ne sait pas vraiment ce qui se passe au travail, c'est des lieux qui sont assez invisibles. Je ne vais pas parler très longtemps. Je pense un peu moins d'une heure. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Et après, je préférerais plutôt qu'on discute entre nous. Parce que moi, c'est des exemples français que je donne et plutôt même parisiens. Et du coup, j'aimerais vraiment entendre des expériences que vous avez dans d'autres lieux, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Et du coup, ça va être un plan plutôt en entonnoir, en commençant d'abord par quelque chose des chiffres très globaux, des statistiques, sur plutôt des grands groupes, etc., pour ensuite terminer sur des commerces qui sont plus petits, des trucs un peu plus à taille humaine, entre guillemets. Du coup, je vais aussi me situer pour que vous sachiez à peu près d'où je parle. Du coup, je suis une femme blanche, cisgenre, hétéro. J'ai fait des études supérieures. Je suis valide et j'ai jamais été dans une situation économique précaire de manière volontaire, involontaire. J'ai été embauchée entre avril 2017 et juillet 2018 dans 3 entreprises véganes à Paris, 2 magasins et un restaurant de type fast-food. Les 2 premières fois, c'était des CDI en 35 heures payés au SMIC. Les 2 fois, j'ai démissionné et la dernière expérience, c'était un enchaînement de 4 CDD. Ah, ok, c'est... ouais, en anglais, je sais pas. In English? En français? Ok. Contrat de travail, donc soit déterminé, donc 1 mois, 2 mois, ou CDI, c'est indéterminé. Ok. Voilà. Du coup, depuis ça, depuis ces expériences-là, moi, je souhaite plus vraiment travailler à temps plein. Je sais pas comment je ferai dans ma vie future, mais c'est des expériences que j'ai pas envie de recommencer. Par rapport à mon positionnement politique, du coup, dans cette conférence, je défends un point de vue anticapitaliste. Ça part d'une critique générale du travail et du salariat. Et à ce sujet, je peux recommander la brochure qui s'appelle « À bas les restaurants » et qui est aussi, enfin, qui est en anglais à la base. Je ne me rappelle pas le nom. Pour moi, tous ces commerces-là, ils n'ont pas vocation à exister. Et ma vision de l'antispécisme, elle comprend l'analyse d'autres rapports de domination, donc elle comprend aussi le travail et les dominations et l'exploitation qu'ils véhiculent. Pour moi, faire du commerce sur du vegan, ça revient en quelque sorte à instrumentaliser de manière détournée les animaux, parce qu'on se sert avant tout d'une tendance et on marchandise la lutte.
Pardon.
Ouais, c'est bien ça. Ok. Du coup, donc ça, c'est juste un plan pour voir à peu près ce qui va être dit. Donc, je vais d'abord donner mes définitions du capitalisme et du vegan washing. Donner des chiffres pour introduire les secteurs. Viande, secteur vegan. Parler des labels, du vegan washing en exemple. Les conséquences que ça a, la consommation de la lutte. Cette logique-là qui s'applique aussi pour les petits commerces, ce que ça fait en termes de travail. Ensuite, je passerai un peu vite là-dessus, mais ça sera une somme des témoignages en fait, et des expériences que j'ai par rapport à différents commerces vegan, soit où j'ai été, soit des témoignages que j'ai eus. Et ensuite, je veux parler de la reproduction des mécanismes d'oppression et de domination au sein même de ce lieu-là. Quelle riposte on peut y apporter, quelle solution on peut y apporter éventuellement. Ok. Pour définir un peu simplement le capitalisme, on peut dire que c'est un système économique dont la priorité absolue est la recherche de profit. Et pour ça, il faut de l'accumulation du capital, donc de l'argent, l'exploitation des ressources, donc des personnes humaines, et des autres animaux. Ensuite, pour le greenwashing, que je trouve assez compliqué à définir, c'est quand des entreprises, des institutions, des États utilisent l'écologie, l'argument écologique, et quand on parle de vegan washing, du coup l'argument vegan, pour blanchir leur communication, leur marketing et améliorer leur image. Et évidemment, quand c'est des entreprises, pour faire un maximum de profit. Ouais, je pense que tu peux mettre celle-là. Je sais pas, par exemple, l'exemple qu'on a en France, c'est les pubs. Les pubs dans le métro, les chasseurs, premier écologiste de France. Ou Coca-Cola qui lance une canette verte qui s'appelle Coca-Cola Life. Les voitures propres, les énergies propres. Dans le cas du véganisme, il y a une enseigne en France qui s'appelle Naturalia et qui sort des sacs, donc je ne sais pas trop comment ça rend en anglais. Ça dit « libre d'être végétarien, végétalien, flexitarien ou juste rien ». Et en fait, cette même enseigne ouvre des enseignes 100% véganes tout en conservant 95% de leurs magasins qui ne le sont pas, qui sont des magasins spécistes. Il y a aussi Aston Martin qui a lancé une voiture électrique vegan. Carrefour. Carrefour qui lance Carrefour Veggie, on a toutes les marques, Erta, Le Gaulois, qui lancent des produits végétaux également. Ça, c'est la première. Non, c'est bien. Je vais donner quelques chiffres. Dans le monde, en 1970, on a abattu 6 milliards d'animaux terrestres. En 2000, c'est 15 milliards. En 2015, 24 milliards. 6 milliards d'animaux abattus en 1970. 15 milliards en 2000. 15 milliards en 2000. 1970. 24 milliards en 2015. En suivant cette tendance, on atteindrait le double en 2050. Dans la même logique, 97% des espèces aquatiques qui sont domestiquées par l'espèce humaine, elles l'ont été à partir du XXe siècle. C'est for food thing.
Yes, globally.
Yeah. Oui, dans le monde. Oui. Ouais. Les poissons, ça se compte en tonnes et pas en nombre d'individus. Les échanges mondiaux de viande, ils sont repartis à la hausse en 2016. Jusqu'à 30 millions de tonnes. Donc c'est plus 5%. Donc il y a un retour en fait à une tendance d'augmentation d'échanges de viande. Et en 2018, le chiffre d'affaires du secteur vegan, c'est 280 millions d'euros dans les grandes et moyennes surfaces. Donc c'est les commerces qui font plus de 400 mètres carrés. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, il ne prend pas en compte tous les petits commerces véganes aussi qui ont explosé. Donc c'est 280 millions dans les magasins qui sont déjà assez grands. Du coup, ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'en France ou en Europe, la consommation de viande baisse, que la souffrance baisse et que les industriels sont en train de flancher, de perdre des sous. En fait, on est actuellement dans une vraie dynamique d'industrialisation. On n'est pas du tout à la fin d'une phase. On est vraiment en plein dedans. Le secteur de l'exploitation animale, il se porte de mieux en mieux, même si la consommation de viande a baissé en France. No, I only have numbers for France.
Okay.
And for global world.
And for France, the number of animals killed for food is increasing as well.
It's not increasing in France, but I think chicken is increasing, but beef is decreasing.
Okay.
And if you want all the, if you want numbers, you can go on viande.info or or France Agricole, and you have all the numbers for France and global world. But Europe, I don't know. I just know that some references say that in Europe it's decreasing. Du coup, l'industrie, elle se sert...
Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de traduction dans le français pour les parties en anglais ?
Pardon. Du coup, l'industrie, elle se sert de tout ça, en fait... en fait, ça lui sert énormément parce qu'elle peut, du coup, véganwasher son image en Europe et Dans le reste du monde, en fait, moderniser son industrie et gagner des parts de marché en export, notamment en Chine, par exemple. En 2026, la production de viande devrait avoir augmenté de 13% par rapport à 2014-2016. Ok. 13% d'augmentation de production de viande par rapport à il y a 5 ans, dans 5 ans. Donc il y a un des PDG du groupe Bigard, qui est un grand groupe d'import-export de viande dans le monde, qui avoue qu'en fait, plus en Europe ils vendent moins de viande, plus ils vendent dans les autres pays et plus ils font d'argent. Parce qu'en fait, la baisse en Europe, elle est largement compensée par le développement du végétal, parce que le végétal, il se développe par exactement les mêmes marques qui vendent de la viande, en fait, en France. Donc, en fait, eux, c'est vraiment génial pour eux, parce qu'ils vendent beaucoup plus en export de produits animaux, et ils vendent beaucoup plus de produits végétaux en France. L'industrie de la viande... Elle estime que le développement du marché vegan est une très bonne chose pour trois raisons. La première, c'est la diversification des gammes. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer 10 produits animaux, ils proposent 10 produits animaux et 5 produits végétaux à côté. La deuxième, c'est qu'ils acquièrent des marchés à l'export. Et la troisième, c'est que le vegan washing, ça leur donne une bonne image. Du coup, ils apparaissent comme des industriels, mais des industriels verts, cool, éthiques. Pour lancer un marché vegan, on peut mettre en place des labels comme cela. Et c'est-à-dire que, en fait, on va faire des statistiques sur les produits vegan par rapport à ces labels-là. Et en fait, ça donne des biais de statistiques, puisque un produit vegan, par essence, en fait, il n'y a pas écrit vegan dessus forcément. Ça fait quand même des années depuis que les magasins existent qu'on trouve des légumes dans les supermarchés, des huiles, des conserves de légumes, de la moutarde, ce que vous voulez. ces produits-là ne sont pas labellisés vegan et pourtant on peut éventuellement se dire que peut-être que leur vente augmente. Et du coup, voilà, ce sont des chiffres qui sont faux dans tous les cas. Et en fait, c'est les produits transformés industriels labellisés vegan qui sont en augmentation parce qu'en fait, ils sont produits et ils existent. Ils n'existaient pas avant.
Juste une question. Est-ce que vous payez pour mettre le logo vegan sur leur...
Il me semble que oui, parce que tu dois payer des contrôles. Je ne sais pas si tu as entendu la question.
J'ai demandé s'ils devaient payer pour mettre le logo sur leurs produits.
Et du coup, en fait, ils doivent payer les contrôles. Ils doivent payer la chaîne en fait, qui va contrôler le produit pendant la production. Et oui, après, pour la visibilisation. C'est des produits qui sont vendus plus cher qu'une boîte d'haricots rouges. Du coup, pour les exemples dans l'agroalimentaire, on est vraiment sur une logique industrielle énorme de vegan washing. Comme j'ai déjà dit, ils sont en train de s'accaparer un marché vegan en conservant à côté le marché de la viande. Et du coup, il n'y a aucune contradiction pour le système capitaliste à vendre à la fois de la chair animale et des steaks de soja et des yaourts au lait de coco. Tant que ça leur rapporte, il n'y a aucun problème. Tribalat Noyal, c'est un grand groupe industriel qui détient deux marques véganes qui sont Sojad et soja sun dans les magasins qui sont pas bio. Donc déjà, c'est important de savoir que si vous achetez du soja, vous achetez aussi du soja sun, enfin que c'est vraiment les mêmes marques qui se développent dans un Carrefour et dans un magasin bio. Et qu'en fait, ce groupe-là, il détient aussi toutes ces marques-là, Petit Billy, La Chèvrerie, Vrai, qui sont des marques spécistes, puisque ce sont des marques qui vendent du lait de chèvre, de brebis et de vache. Donc quand vous achetez du produit soja ou du produit soja sun, vous achetez aussi à des entreprises spécistes. Je sais pas si tu peux monter ou descendre pour lequel. Ok. Après, enfin, du coup, il y a d'autres groupes comme Nestlé, Danone, Wessanen. Ouais, Wessanen. Donc, vous voyez à peu près ces marques que vous trouvez aussi en magasin bio et en grande surface. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Ouais. Le Gaulois. White Watchers, Marie. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes grands groupes qui vont produire du vegan. Alpro, c'est Danone. Je ne sais pas si vous le saviez. Parce que c'est une des marques les plus accessibles en vegan. C'est Danone. Je pense qu'après, ouais. Donc au sein des marques qui font essentiellement du vegan, que du vegan, donc il y a à peu près toutes ces marques-là. Et elles apparaissent plutôt du coup dans des magasins bio ou des enseignes dédiées au 100% vegan. Il y a aussi des marques distributeurs. Ok, des marques. Ok. Les marques dédiées en fait au végétal de Carrefour, Auchan. Je sais pas, ici c'est Migros, peut-être qu'ils en font, je sais pas. Et qui sortent tous, enfin tour à tour, ils sortent leur gamme 100% vegan. Les chaînes de restauration, McDonald's, Domino's Pizza, Starbucks, qui sortent aussi des produits labellisés vegan. Du coup, les conséquences de tout ça, c'est que le capitalisme, en fait, il va nous donner une grande illusion de choix. On a l'impression que de la même manière qu'on va aller choisir pour qui on vote pendant des élections, on va avoir l'impression de choisir qui on mange, ou en tout cas à qui on donne notre argent. Et en fait, avoir cette illusion de choix, c'est pas du tout un acte autonome, mais c'est juste l'ajout d'un produit en plus. Et c'est... moi je suis assez critique sur le mythe du marché qui va s'autoréguler, ou comme quoi ce que j'achète, ça revient à donner un vote pour une certaine entreprise. Il faut pas croire que plus on achète de végétal, moins il y a d'animaux qui sont tués. Une autre conséquence, c'est qu'on va avoir tendance à se dire super chouette, ils pensent à notre confort, mon mode de vie est reconnu, je me sens vraiment plus à l'aise dans un magasin. Alors qu'en fait, c'est les personnes et les industries à l'origine du problème qui trouvent ensuite, qui essayent de nous proposer une solution à ce problème-là, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Donc en fait, c'est une solution pour l'industrie, pas pour nous. Une autre conséquence, c'est qu'en fait, plus on aura de produits vegan dans les magasins, plus on en achètera. Plus on sera dans une impression en fait d'industrie apaisée, d'industrie qui devient de plus en plus éthique. On a l'impression que, les productions sont tout à fait apaisées. On va vraiment avoir tendance à se concentrer sur ce que nous on achète en nous disant que ça fait beaucoup plus de végétal et ça va beaucoup mieux, etc. Et en fait, ce monde vegan-là, c'est une diversion par rapport aux chiffres que je n'ai avant, par exemple. Et je pense qu'en tant que militant, militante, on ne devrait pas se croire épargné en fait, de ces logiques-là de consommation qui sont très ancrées en nous. Les personnes qui se font avoir, ce n'est pas seulement les autres, ce n'est pas seulement les carnistes, mais nous-mêmes aussi. Et du coup, je pense que c'est des diversions assez néolibérales du coup, de la lutte pour les animaux. Et ouais, du coup, je pense qu'il ne faut pas oublier l'être consommateur qu'il y a en nous. Et que c'est. Enfin, comment dire que. Enfin, même moi. Enfin, moi, j'ai l'impression de toujours me faire avoir quand je vais dans un magasin. Quand je vois des glaces Magnum vegan, je suis hyper contente. Il ne faut pas non plus en avoir honte, mais il faut quand même en être conscient. Ensuite, il y a du coup, comment dire, cette idée-là que la lutte antispéciste, elle ne peut pas être consommée, qu'il n'y a pas de consommation de la lutte. Que la libération animale, en fait, c'est jamais qu'une question, c'est pas une question économique, et que si on considère que les multinationales, elles ne peuvent pas nous vendre la libération animale, bah, en fait, on ne peut pas non plus l'acheter. Et du coup, voilà, il faut vraiment essayer de ne pas se faire avoir. Du coup, le marché vegan, il n'est pas antispéciste, et si jamais il était antispéciste, ben en fait, il s'effondrerait de lui-même. Okay. Du coup, là, je vais parler plutôt des commerces un peu plus petits. Donc, ces commerces-là, ils reprennent un modèle économique et hiérarchique qui est similaire à celui de tous les autres. Donc, des chefs, des patrons. Des patrons, des managers, des employés. Des livreurs. Ok. Quand on va pour se faire embaucher dans un commerce vegan, on a vraiment l'impression que c'est super et qu'on va pouvoir militer en même temps. Du coup, on trouve des idées pour aménager le magasin. On a vraiment envie de parler avec tout le monde. Et en fait, plus le temps passe, plus on va mettre de côté son militantisme pour préserver en fait le lieu en lui-même et les logiques économiques qui sont liées à ce commerce-là. Les clients, en fait, ils s'attachent... Quand bien même les clientes sont des personnes militantes... Ils s'attachent à des produits spécifiques, des marques spécifiques. Et en fait, ils sont quand même pas contents quand ils trouvent pas ce qu'ils veulent acheter. Et ils sont pas contents non plus quand c'est trop cher. Et du côté de l'entreprise, bah, on cherche toujours à faire du profit, même si c'est du profit vegan. Du coup, on a les mêmes techniques que pour les grandes surfaces. Faire des promotions. Donner l'illusion du choix. Et on va négocier avec des producteurs, comment dire, des petits producteurs, des personnes qui ont des marques, Voilà. Et en fait, même avec ces personnes-là, on va faire en sorte qu'elles vendent moins cher leurs produits, quitte à ce que ces marques-là se cassent la gueule après, je ne sais pas comment dire. Du coup, cette petite entreprise-là, elles essayent quand même d'être le plus éthique possible, de créer le moins de déchets possible. Et ça les met en concurrence avec toutes les autres marques, en fait, pour savoir laquelle va être la plus éthique, la plus végane, etc. Et du coup, ça fait des prix juste exorbitants. Donc ça ne s'adresse en fait qu'à très peu de monde au final. Du côté des personnes en fait qui ouvrent des commerces ou des restaurants, même si on se dit que c'est dans une démarche militante de conversion des personnes au véganisme, etc., il faut savoir que pour ouvrir n'importe quel commerce, il faut faire une étude de marché. Donc avant même d'avoir ouvert en fait n'importe quel commerce, il faut connaître la concurrence dans le quartier. Montrer à la banque ce qu'on va faire de mieux que les autres pour montrer qu'on va faire plus d'argent que les autres. Donc pour ouvrir un lieu, il faut forcément se mettre dans une logique de profit et donc une logique capitaliste. Ce qu'on peut apercevoir à Paris, c'est que les commerces qui ne suivent pas ces logiques-là et qui sont des petits commerces familiaux, éthiques, en fait, ils vont tous fermer les uns après les autres. Ils ne restent pas ouverts plus d'un an. Et sur le sujet du travail, en fait, un contrat de travail, il ne peut pas être vegan. Ça reste un contrat classique, et surtout dans la restauration, ou les conventions collectives. Sont toujours au désavantage des employés. Dans ces boutiques-là, en général, on travaille toujours plus de 35 heures. On est toujours au SMIC, minimum. Et on doit toujours savoir faire le maximum de tâches possibles en le minimum de temps possible. Quand c'est sur des... Donc souvent, les petits magasins vegan, c'est des surfaces qui sont très petites. Et du coup, ça pousse les patrons à employer vraiment très peu de monde. Et ça fait que vous êtes présent, en fait, sur des journées entières. Vous êtes seul pour ouvrir, pour fermer. Ce qui est normalement pas autorisé. Et pour les restaurants, en fait, il faut prendre en compte que c'est des produits. En général, il y a quand même une grande gamme de produits qui doivent être cuisinés tout de suite pour être consommés tout de suite. Il faut réussir à le vendre à un prix qui va permettre de la payer la nourriture, les charges, les employés. Taxes. Et surtout de tirer du profit de tout ça après. Du coup, la logique est aussi d'avoir le moins d'employés possible. Le climat est toujours très stressant puisqu'on peut produire le repas seulement au moment où il est commandé. Les tâches sont très répétitives, doivent être faites très rapidement et sont très spécialisées. On peut passer 6 heures à couper le même 7 ans tout le temps. Tofu. Il y a certains animaux qui peuvent même devenir des ennemis dans ces commerces-là, à savoir les souris, les rats, les insectes l'été, et tous ceux qui mettront l'hygiène d'un restaurant en péril. Et il y a aussi les mêmes logiques, les mêmes rapports entre clients et employés, qui ne sont plus des rapports militants, mais c'est un rapport de force où on doit les servir assez vite, mettre les bons ingrédients qu'ils ont demandé, la bonne quantité pour le bon prix. Du coup, qu'on soit employé ou qu'on soit client, on a toujours un fort sentiment d'engagement et de responsabilité qui va nous pousser à toujours soutenir ces commerces-là. Parce qu'on va toujours raisonner en termes de conversion des personnes. Que plus il y aura de commerce vegan, plus les personnes seront véganes. J'ai juste un exemple de ça, c'est en France, c'est Vegoresto. Vegoresto. C'est un site internet qui référence tous les restaurants où on peut manger vegan. Et oui, comme Happy Cow par exemple. Voilà. Et en fait, Vegoresto, ils mettent en place des partenariats avec des restaurants spécistes, des défis. Pour que ces restaurants proposent, fassent l'exercice de cuisiner vegan un soir. Et en fait, la plupart du temps, ce sont des restaurants très chers qui vont juste ajouter une option vegan sur leur carte et du coup faire plus d'argent. Mais c'est pas du tout des lieux où... je veux dire, c'est des lieux qui sont hors de prix la plupart du temps. Et en fait, ce site, il continue à référencer des lieux qui continuent de mettre en valeur la gastronomie. Donc des logiques élitistes de la nourriture. Des techniques patriarcales et classistes du monde de la cuisine, en fait. Quand nous, en tant qu'antispécistes, on défendrait une cuisine de partage avec très peu de dépenses, des recettes accessibles, eux, ils continuent, en fait, à valoriser la violence, la compétition, et une sorte de fausse finesse de la gastronomie française, en ajoutant juste une option vegan à leur carte. Du coup, je vais, enfin, je vais peut-être parler de deux, trois expériences que j'ai eues. Et après, je veux bien qu'on puisse échanger sur vous, si vous avez des témoignages dans d'autres lieux, dans d'autres pays. Donc, le premier exemple, c'est un restaurant vegan qui a ouvert à Montréal, dans un quartier en pleine gentrification. Où, en fait, le droit du travail n'est pas le même là-bas. Et on peut un peu virer une personne comme on l'entend, comme on veut, quoi. Enfin, virer une personne comme ça. Et en fait, il y a une personne qui fait la plonge là-bas, enfin, qui est employée là-bas, et à qui on demande de ne pas apparaître devant les clients. Et qui subit un harcèlement moral quotidien. Mais qu'elle peut pas faire grand-chose parce qu'en fait, elle est dans une situation très précaire. Et si elle parle, en fait, elle risque de se faire virer. Mais en fait, comme ça devient vraiment trop, trop dur, c'est vraiment limite dangereux pour sa santé mentale, quoi. Du coup... Elle envoie un texto à sa chef. Et en fait, au lieu de répondre à ce texto-là, sa chef la vire. Et du coup, elle se retrouve... Enfin, en fait, c'est à une semaine de Noël. Je sais pas... Enfin, renvoyer une personne à cette période-là, ça veut dire, en fait, la renvoyer potentiellement à la rue. Sachant qu'à Montréal, il fait jusqu'à moins 20 degrés la nuit. Et du coup, sur cette histoire-là, en fait, il y a eu beaucoup de soutien des personnes du quartier. Il y a eu énormément de personnes qui ont déposé un témoignage similaire au sien dans des restaurants qui sont véganes ou pas véganes, enfin, je veux dire, dans les restaurants de toute la ville de Montréal. C'est juste pour montrer que même si c'était un restaurant qui affichait énormément de décorations militantes, de tags dans le restaurant, il y avait enfin une ambiance vraiment un peu ça faisait vraiment un lieu comment dire un peu à la cool quoi. Et voilà, c'est juste pour montrer qu'on voit rarement ce qui se passe vraiment dans les équipes. Mais que généralement, il vaut mieux pas se fier à ce à quoi ressemble le lieu. Sur cette affaire-là, le fait que beaucoup, beaucoup de personnes aient réagi, ça peut être expliqué parce qu'on a une idée de pureté éthique quand on parle de vegan et de commerces qui sont vegan. Faire du marketing sur des questions éthiques. Presque inconsciemment, on a l'impression que c'est des endroits où il n'y a pas d'exploitation possible. Dans une expérience à moi, du coup, dans un fast-food à Paris, vegan, comment dire ? Il y avait en fait, il y a trois personnes qui se sont mises en associé pour ouvrir un restaurant. Mais dont une des personnes n'avait que 5%. Donc les deux autres avaient 95%. Et cette organisation-là a permis, en fait, de ne pas payer cette personne pendant 3 ans. Qui vivait dans la pièce de rangement du restaurant. Elle était logée là-bas. Soit 7 mètres carrés. C'est elle qui connaît... c'est elle qui est en charge de toutes les recettes du restaurant. C'est elle qui pense à faire toutes les courses. C'est elle qui gère le restaurant. Elle travaille en fait du réveil au coucher, donc de 8h du matin à 1h du soir tous les jours. Du coup, sur 3 ans, il y a eu énormément d'événements que je peux pas tout raconter. C'est juste pour dire que cette personne, elle était en position de salariat dissimulé. Et que quand un couple en face de vous détient 95% des parts d'une entreprise, vous n'avez aucun pouvoir. En plus de ça, il y avait une énorme pression psychologique. Donc la surveillance de tous ces appels, ces textos, ces mails. On lui a interdit de parler à certaines personnes. Et en fait, elle est dans une telle situation de dépendance économique, puisqu'elle touche 0 euro et qu'elle n'a pas de loyer, et qu'à Paris, ça coûte très cher de se loger. En fait, à chaque fois qu'elle veut partir, le couple en face d'elle retourne la situation pour qu'elle pense toujours que c'est elle le problème. Donc c'est aussi un restaurant qui utilise énormément de livreurs à vélo. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est aussi un sujet qui est important. C'est que l'exploitation des livreurs et des livreuses à vélo, c'est, pour moi, c'est aussi quelque chose auquel on doit penser quand on ouvre un commerce ou un restaurant. C'est que ce n'est pas parce qu'on n'exploite pas d'animaux à l'intérieur qu'on peut se permettre de mettre d'autres personnes dans des situations précaires comme ça. Et c'est aussi un restaurant où toutes les caméras, donc il y en a partout, dans la cuisine, dans toutes les salles, enfin, il y en a vraiment partout. Elles sont reliées directement au téléphone des patrons. Et du coup, ils appellent... Donc, ils sont jamais là, hein, évidemment. Et en fait, ils appellent pour dire que le couvercle de la poubelle est mal fermé, que quelqu'un a mis son t-shirt à l'envers ou qu'il y a un couple de lesbiennes qui s'embrasse en bas et que c'est vraiment pas cool. Ils disaient aussi, du coup, à leur associé, ils lui disaient « Oh, cette nuit, à 4h du matin, t'es allée faire pipi ?» Voilà. Enfin, en gros, c'était vraiment une surveillance assez intense. Et juste, du coup, une dernière expérience que j'ai eue dans un magasin vegan, où du coup on n'était que 2 personnes pour gérer un magasin qui normalement où on doit être au moins 4 normalement. Et en fait il y avait des souris qui étaient nos colocataires dans le magasin. Et en fait, fallait que le magasin soit ouvert tous les jours, disons de 10h à 20h. Et du coup, fallait arriver au moins 2 heures avant pour tous les matins tout nettoyer, effacer toutes les traces, préserver le magasin avant tout. et dans le même temps essayer de trouver des solutions pour bah, pour qu'elle soit plus fin, pour éventuellement elle puisse ne pas revenir. Et sauf que comme le patron était totalement absent et que nous en fait on n'avait pas du tout le temps de régler ça vu qu'on travaillait déjà plus de 40 heures par semaine au SMIC. Il y a un des collègues qui a eu une infection pulmonaire à cause des souris. Tellement ça a duré longtemps comme problème. Et il y a une autre collègue qui n'arrivait plus à manger pendant des semaines et des semaines. Et du coup, on devait vraiment gérer un magasin comme... enfin, les commandes, vraiment le travail que ferait normalement un patron. Tout en écoutant les tâches qu'il nous donnait tous les jours qui étaient impossibles à faire. Et du coup, en fait, le plus dur dans tout ça, c'est d'avoir l'impression qu'on fait ça pour la bonne cause. Et de toujours vouloir faire durer, en fait, le magasin, en oubliant derrière sa santé mentale et physique. Et on a vraiment l'impression de faire quelque chose d'important, alors qu'au final, on vend toujours des produits hyper emballés qui appartiennent à des industriels. C'est juste qu'il y a écrit « vegan » dessus. Et que les personnes qui viennent acheter des produits dans les magasins, elles se soucient absolument pas de comment fonctionne le magasin et de dans quelles conditions on est, quoi. Du coup, c'est aussi des lieux qui reproduisent tout le temps les mécanismes d'oppression, je dirais humains. Donc c'est des lieux qui sont sexistes, où on me refuse d'être à des postes où il faut porter des choses lourdes, par exemple, et que pour ça, c'est que des hommes qui le font. C'est en général, on va toujours mettre en gros... des filles à la vente et des gars à la manutention, à la préparation des commandes, etc. C'est des milieux qui sont aussi racistes. Donc, ils emploient très majoritairement que des personnes blanches. Et s'ils emploient des personnes racisées, c'est des personnes qui sont en cuisine, en général. Et le jour où un des patrons a embauché deux personnes racisées dans son équipe, il a dit à tout le monde que c'était United Colors of Benetton. Et un jour, il est arrivé dans le magasin qui lui semblait pas assez rangé. Et il a dit « Non, mais on n'est pas chez les Gitans ici ». C'est aussi des lieux qui sont classistes. Majoritairement, les prix sont toujours très élevés. Il y a aussi beaucoup de communication des marques en anglais. Et bah, en tout cas, en France, c'est pas du tout une langue qui est accessible à tout le monde. Et du coup, ça donne vraiment l'impression que le monde vegan, c'est un monde à part, avec des termes qui sont nouveaux, que personne ne comprend. Et du coup, c'est aussi des lieux qui sont dominants seulement dans les aires urbaines, en ville. C'est des lieux aussi qui sont transphobes et homophobes en général. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à voir, enfin, comment dire, à surveiller un couple de lesbiennes qui s'embrassent. Et un an plus tard, le même restaurant fait une communication pour la Marche des Fiertés à Paris. Non. Après. Il y a aussi eu une personne trans d'embaucher. Et du coup, l'une des patronnes s'est écriée. Je suis désolée parce que je ne sais pas. Enfin, déjà, c'est un mot que je n'utilise pas en français et en anglais, je ne sais pas. Elle a dit « Oh, on a embauché un travelot. » C'est aussi des lieux qui sont grossophobes. Où en fait, toutes les marques qui font du vegan font aussi une communication sur la santé. Et là-dessus, je vous renvoie à la conférence de Géraldine qui y aura demain. Et c'est aussi en fait des commerces qui vont toujours renforcer la gentrification. Il y a toujours une logique de violence géographique quand un commerce vegan ouvre quelque part. Soit c'est dans un quartier qui est déjà riche, aisé, où la clientèle est déjà là. Et dans ce cas-là, c'est une barrière symbolique en fait pour les personnes pauvres. Soit c'est dans des quartiers populaires ou en gentrification, où les gens du quartier viendront jamais, et du coup sont repoussés à la périphérie des villes. Et c'est aussi des lieux qui sont spécistes. Dans tous les naturalia vegan. Donc c'est une chaîne, pour les personnes qui, enfin je sais pas si, je pense qu'il y en a qu'en France, c'est une chaîne de magasins bio qui a ouvert plusieurs magasins vegan à Paris. C'est des pièges à colle pour les souris dans tous ces magasins-là. Donc quand vous êtes employé là-bas, vous devez décoller des souris le matin. Et souvent, elles sont déjà mortes. Et en fait, c'est des lieux de profit qui vont toujours se tenir loin des animaux. Un commerce, c'est toujours un lieu d'échange entre humains seulement. Et les animaux sont toujours exploités à côté. Et chaque... Enfin, même quand ce sont des petits commerces ou des petites marques, c'est toujours, en fait... le but est toujours de grandir, en fait, et de devenir une grande marque ou un grand commerce. Du coup, quelle riposte on peut avoir par rapport à tout ça? Pour l'exemple du restaurant de Montréal, par exemple, l'employé a eu la bonne idée de rendre public son licenciement. Et ça lui a permis d'avoir beaucoup de soutien. Et du coup, de donner une mauvaise image du restaurant. Dans deux des commerces où j'ai été, on a fait des arrêts de travail collectifs avec les collègues. C'est-à-dire qu'on a toutes arrêté de travailler en même temps. Parfois, on peut aussi avoir des techniques d'autogestion dans ces lieux-là. Auto-organization. C'est-à-dire quand les patrons sont absents, en fait, on peut se servir de leur absence aussi pour mettre en place notre fonctionnement à nous. Par exemple, le jour de la marche pour la fermeture des abattoirs à Paris, Slaughterhouse. C'est un des jours où le magasin fait le plus grand chiffre de l'année. Comme tous les militants militantes sont à Paris. Et du coup, le patron ne voulait pas qu'on ferme le magasin au moment de la marche. Mais comme il n'était pas là, on l'a quand même fait. En termes de solution à tous ces problèmes-là, quand on vit dans un monde capitaliste, quand on vit en ville, et que ça reste très difficile de pas avoir des logiques de consommation, ça peut être intéressant de se retrouver plus dans des lieux associatifs, militants, ou au moins gratuits. Chez les unes, les uns, les autres, quand on peut. Enfin, au domicile des personnes avec qui on veut passer du temps. Et la gratuité, le prix libre, ça peut permettre de se défaire des logiques de consommation obligatoire et de n'exclure personne. Et même si je soutiens pas les logiques d'action, je crois pas trop dans l'action individuelle et le boycott, etc. Mais sur les expériences de travail, c'est quand même important de savoir ne pas retourner dans un lieu quand on sait que les personnes y sont exploitées. Quand on sait que des personnes sont maltraitées au travail, d'arrêter de fréquenter ces lieux-là. Et le problème, c'est que ça touche, à mon avis, énormément de commerces, même quand ils sont véganes. Voilà.